Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, vite manger, vite jeter, vite trier tous les emballages des fast-food dans la même poubelle. Pas de recyclage chez McDo et les autres qui vont se faire taper sur les doigts aujourd'hui au ministère de l'Environnement. Des agressions, des tensions, des malades qui attendent des heures. On connaît le tableau des urgences en France. Nouvelle manifestation devant le ministère d'Agnès Buzyn et du Vécu dans ce studio dans 20 minutes. Deux soignants au micro.
Il s'agit, oui Florence, du professeur Jonathan Freund, qui est urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et de Candice Lafarge, aide-soignante, elle, à l'hôpital Saint-Antoine. Ils sont les invités du grand entretien de la matinale. Intervenez 01 45 24 7000.
À la une également, trop de noyades en France, plus de 1600 l'an dernier. Y penser, avec l'été qui s'annonce, ce sont les plus petits qui risquent le plus l'accident. Nous ne sommes pas des monstres, le Japon fait visite ses prisons après l'affaire Carlos Ghosn. Des taxis qui volent également dans ce journal. Uber les promet pour 2023. Tony Parker qui lâche les parquets avant de devenir moins bon. Et puis Andorre France ce soir en match éliminatoire de l'Euro 2020. Niveau ambiance, ça risque d'être beaucoup moins bien que la Coupe du Monde féminine de football.
France Inter.
Imaginez 180 000 tonnes d'emballages de burgers, de gobelets, de paille, de cornets de frites, résidus d'un milliard de repas par an servis dans les fast-foods de France et qui ne sont pas triés. Pas de poubelle jaune chez McDo, Burger King, KFC ou Starbucks, qui vont se faire donc remonter les bretelles chez Brune Poirson aujourd'hui, convoquée au ministère de l'écologie pour justifier de leurs efforts en matière de recyclage. Certains vont s'y mettre, ils s'engagent à le faire. En tout cas, d'autres sont carrément à la traîne et s'en dit de enfin, pas de pudeur au ministère, les noms des récalcitrants sont lâchés.
Dans cet établissement parisien, comme dans la quasi-totalité de la restauration rapide, tout ce qui reste sur le plateau ira à la poubelle classique.
On a beaucoup de bouteilles plastiques, emballages de sandwich en carton, des pailles, des choses comme ça.
En début d'année, la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, a lancé un ultimatum aux chaînes. D'ici la fin de l'année, 70% des fast-foods doivent trier, 100% dans 3 ans. Aujourd'hui, sur les 15 grandes chaînes, seules 4 s'y engagent. Exki, Cogent, Jour et Subway. Quant à McDo, Starbucks et Burger King, ces géants disent qu'ils vont faire plus d'efforts, mais impossible de respecter ce calendrier. Thibaut Turchet de l'association Zero Waste milite pour maintenir la pression.
Nous, on a engagé la chose avec une plainte au mois d'octobre 2018 et l'État a pris la suite en fait en demandant des plans de gestion aux établissements de la restauration rapide. Un premier plan a été remis non satisfaisant. Là, il y a un second tour. On espère que l'État tiendra bon dans ce bras de fer. Effectivement, je pense qu'on peut qualifier ça comme ça.
En matière de tri et de recyclage, le ministère de la Transition écologique pointe deux enseignes du doigt aujourd'hui. Le géant du poulet KFC et Domino's Pizza.
Et dans les fast-foods comme chez nous, les œufs, le poulet, le porc que nous mangeons en Europe aggravent considérablement la destruction des forêts au Brésil et en Argentine. On les remplace par la culture du soja OGM exporté pour nourrir les animaux d'élevage. C'est Greenpeace France qui nous donne mauvaise conscience ce matin.
Quand une patiente, Florence, il est 8h03, quand une patiente agresse des soignants.
Un médecin, deux aides-soignantes et une infirmière ont porté plainte hier après avoir subi des coups aux urgences du CHU de Rennes, scène ordinaire à l'hôpital dont les personnels à bout ont rendez-vous devant le ministère de la Santé ce matin. Les dernières annonces d'Agnès Buzyn n'ont pas apaisé leur colère, Véronique Julia.
Depuis 2005, ce sont près de 10 milliards d'euros d'économies qui ont été demandés aux hôpitaux publics. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a beau avoir accordé quelques crédits en début d'année, les établissements tirent la langue. Plus de la moitié d'entre eux sont dans le rouge. Fermeture de lits au profit de l'ambulatoire, fermeture de maternité, heure d'attente aux urgences avec des couloirs surchargés. Les patients constatent les tensions et la ministre elle-même reconnaît que la situation est insupportable. Dans les médias, elle propose une mission sur les urgences qui rendra ses conclusions à l'automne. Pour le reste, une réforme est engagée mais elle prendra du temps car l'hôpital souffre en fait d'un problème de fond, le manque de médecins en France. Comment réduire les déserts médicaux qui font que les patients se tournent systématiquement vers l'hôpital? Comment organiser en ville des centres de soins non programmés qui permettraient de délester les urgences d'un certain nombre de cas pas forcément vitaux? D'après la Fédération hospitalière hospitalières de France, qui représentent les hôpitaux, 50% des patients aux urgences y viennent faute d'avoir trouvé une consultation en ville. La fédération qui s'inquiète déjà pour cet été. À très court terme, dit-elle, s'il y a un coup de chaud, une canicule au mois d'août par exemple, et que les médecins libéraux sont en vacances, nos services vont craquer.
Et la loi santé doit justement être votée au Sénat aujourd'hui, qui prévoit de réorganiser la médecine de ville pour désengorger les urgences. Reportage sur franceinter.fr dans les couloirs de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Reportage formidable de Véronique Julia. Il va pouvoir polir son image sociale. C'est ce que les présidents font quand ils parlent à la tribune de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Emmanuel Macron s'y rendra aujourd'hui pour le 100e anniversaire de cette organisation qui défend les droits des travailleurs. Attendu par l'ancien patron de la CGT, Bernard Thibault, aujourd'hui représentant des travailleurs français au conseil d'administration de l'OIT.
Sur la nécessité de faire progresser la justice sociale, tout le monde en France peut bien s'apercevoir qu'une majorité de Français considère que la politique nationale de son gouvernement ne favorise pas la recherche de la justice sociale. Au contraire, c'est plutôt la critique d'une injustice sociale, d'une injustice fiscale qui domine dans notre pays depuis plusieurs mois. Il est assez courant que des chefs d'État viennent dans les assemblées des Nations Unies pour tenir des discours sur les questions sociales, j'entends, qui soient parfois en contradiction avec leur propre politique nationale. Vous savez, il y a des précédents, hein. Je pense que le plus célèbre pour ce que j'ai vécu, c'était le président Sarkozy qui, en l'année 2009, juste après la crise financière de 2008, avait tenu un discours anticapitaliste de premier plan. Il avait même été plus acclamé que le président Lula, brésilien.
Bernard Thibault avec Manuel Ruffez. Une nouvelle défection chez les Républicains. C'est la présidente du groupe LR à la mairie de Paris, Florence Berthoux, qui prend la tangente. Elle quitte le parti et soutient désormais Emmanuel Macron. Comment regarde-t-il la déliquescence de l'alliance Renault-Nissan qu'il a lui-même fabriquée? Carlos Ghosn, assigné à résidence au Japon, peut sans doute lire la presse. Il n'est plus en prison. On a beaucoup parlé en France de ses conditions de détention et du système judiciaire japonais. Ce que les autorités ont trouvé déplacé. Alors pour redorer l'image de ces prisons, le ministère de la Justice a invité une poignée de journalistes étrangers à visiter le centre de Kosuge où se trouvait Carlos Ghosn. Bonjour Yann Rousseau.
Bonjour.
Vous avez fait la visite, Yann, dont l'objectif était pour les Japonais de faire passer le message suivant: non, nous ne sommes pas des monstres.
Oui, c'est exactement ça. Le gouvernement en a vraiment assez des discours très critiques. Vous savez, depuis l'arrestation de Carlos Ghosn, il y a eu beaucoup de commentaires sur ce que les pénalistes japonais appellent la justice de l'otage. Donc c'est ce système où les personnes sont mises en examen et elles sont techniquement innocentes, mais elles se retrouvent sous pression moralement, psychologiquement, jusqu'à ce qu'elles craquent et qu'elles confessent leurs crimes. Alors, c'est pas des coups, c'est pas des tortures, c'est pas de la maltraitance, c'est absolument pas ça. Mais il y a dans le système japonais la conviction que les personnes mises en accusation sont forcément coupables et qu'elles doivent donc avouer, puisqu'à la fin, lors de leur procès, elles seront de toute façon condamnées dans 99,97% des cas. Donc, pour les faire craquer, on les place avant en garde à vue très longtemps, c'est 23 jours à chaque nouvelle arrestation, et ensuite, il y a de longues détentions provisoires jusqu'au procès dans des conditions très strictes.
Et alors, ces prisons, Yann, celle de Kosuge en l'occurrence, est-elle si épouvantable ?
Ben absolument pas, c'est même l'inverse. Le centre de détention de Kosuge ressemble en fait à un immense hôpital public français, mais tout neuf. Il y a du lino brillant partout au sol, les murs sont d'un blanc impeccable, beaucoup de lumière partout, pas de gros barreaux aux fenêtres, et les gardiens ne portent pas d'armes, même pas une petite matraque, ils ont juste une bouteille de spray de défense à la ceinture. Toutes les grandes portes entre les différentes ailes du bâtiment de 12 étages sont ouvertes avec des systèmes de reconnaissance d'empreintes. On n'a pas ce bruit des clés, des serrures qui se ferment. Alors, si cet univers est impeccable et très silencieux, on peut comprendre qu'il soit aussi très oppressant. La plupart des détenus sont dans des cellules individuelles de 7 mètres carrés, très étroites, où ils vont rester enfermés plus de 23 heures sur 24. Ils se lèvent à 7 heures du matin, ils doivent se coucher à 21 heures. Il n'y a qu'une sortie sur le toit de 30 minutes par jour dans une autre cellule, mais qui est là à ciel ouvert. Le reste du temps, il faut rester assis sur un tatami dans un coin de la cellule sans parler. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'activité en commun, il n'y a aucun échange avec les autres détenus. La prison passe un peu de radio le matin et le soir. C'est ce moment où les prisonniers ont le droit de se lever dans la pièce. Sinon, vous ne pouvez que lire ou que écrire, rien d'autre. Et c'est cet ennui qui dévore les détenus et les fait craquer. Surtout que les conditions sont presque les mêmes que vous soyez un simple suspect ou un condamné à vie.
Bon, bah, c'est vraiment pas un club de vacances. Merci Yann Rousseau, en direct du Japon. Vous êtes le correspondant des Échos là-bas. Souvenez-vous, l'été dernier en France, ces noyades qui avaient tant choqué par leur nombre, confirmé ce nombre aujourd'hui par Santé publique France. Les noyades accidentelles ont augmenté de 30% en 2018 par rapport à 2015, Rémi Brancato.
L'été 2018 a été le deuxième le plus chaud depuis 1900. Résultat, c'est logique. Plus de baignades et des noyades, en hausse de 30% par rapport à 2015, date de la précédente enquête. En tout, 1649 noyades accidentelles, dont 597 mortelles, entre début juin et fin septembre, avec un pic d'accidents au moment de la canicule, fin juillet, début août. Certaines tranches d'âge sont particulièrement touchées. Les plus jeunes, d'abord, 600 accidents chez les moins de 13 ans. C'est deux fois plus qu'en 2015, et notamment 443 chez les tout petits, les moins de 6 ans, 35 décès. Chez les plus âgés ensuite, avec des accidents plus souvent fatals, 137 morts l'été dernier chez les plus de 65 ans. Santé publique France préconise donc de ne jamais abaisser sa vigilance pour la baignade des enfants, de renforcer l'apprentissage de la nage, et pour les adultes, de tenir compte de son état de santé, de ne pas surestimer sa condition physique avant de se jeter à l'eau.
Et la ministre des Sports, souvenez-vous, ancienne championne de natation, a récemment annoncé un plan aisance aquatique pour familiariser les enfants avec l'eau dès le plus jeune âge. C'est la deuxième fois cette année. Le piton de la Fournaise est entré en éruption ce matin. De la lave est en train de jaillir du cratère du volcan.
Il est 8h11, Florence, quand les BD des années 70 imaginaient des voitures volantes.
On se disait qu'on ne les verrait sans doute pas de notre vivant, Nicolas. On avait tort, si l'on en croit Uber, qui présente aujourd'hui et demain son taxi volant pour désengorger le trafic des villes. Uber promet les premiers vols pour 2023, Grégory Philips.
Sur la vidéo de présentation futuriste, une mère de famille commande son taxi volant via une application. Elle monte au 17e étage d'un immeuble et décolle à la verticale à bord d'un appareil croisement d'un petit avion et d'un hélicoptère. Uber, qui travaille sur ce projet depuis 2016 avec plusieurs partenaires, notamment Boeing ou la compagnie texane Bell, espère réaliser les premiers tests l'an prochain et lancer son dispositif Uber Air en 2023, d'abord à Los Angeles et à San Francisco. Le modèle économique est celui-ci, $90 pour un vol de 29 minutes sur un trajet qui prendrait deux fois plus de temps en voiture. L'appareil pourra voler jusqu'à 320 km/h. L'un des dispositifs clés de cette technologie, expliquait l'an passé sur CBS le PDG de Uber, Dara Khosrowshahi, c'est d'avoir quatre passagers. Le partage du trajet fait baisser les coûts et ça permettra d'offrir ce service à tous, aux gens normaux. En attendant que ces taxis volants soient opérationnels et surtout validés par les autorités de transport, Uber a un projet à plus court terme. L'entreprise lancera le 9 juillet prochain à New York son service Ubercopter, où pour un peu plus de $200, les passagers pourront partager un hélico et relier la pointe sud de Manhattan à l'aéroport JFK en moins de 10 minutes. Washington, Grégory Philips, France Inter.
Un hélico à Manhattan, c'est l'accident spectaculaire d'hier à New York. L'appareil s'est brutalement posé sur le toit d'une tour de 54 étages. Ensuite, il a pris feu, le pilote est mort et l'immeuble a tremblé, ce qui a rappelé de très mauvais souvenirs aux New-Yorkais traumatisés par l'attentat du World Trade Center. C'est l'histoire d'un homme de 37 ans qui prend sa retraite à présent. Tony Parker a donc raccroché hier après 18 saisons en NBA, le championnat américain, le meilleur joueur de l'histoire du basket français, ne veut pas risquer de devenir l'ombre de lui-même.
Parce que je prends ma retraite. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir, pour vous l'annoncer en premier. J'ai pris la décision de ne plus jouer au basket. Je me suis posé pas mal de questions, et notamment de savoir si je pouvais toujours jouer comme Tony Parker en championnat. Et ma décision est prise, j'arrête.
Il lui reste le business, la station de Villard-de-Lans qu'il vient de racheter et la présidence du club de Villeurbanne. Enfin, du foot et de l'ambiance à Andorre ce soir. Du foot, il y en aura pour ce nouveau match éliminatoire de l'Euro 2020 après la défaite des Bleus 2-0 samedi dernier en Turquie. Pour l'ambiance, Cédric Langrotte, il va falloir repasser.
Ils ont quitté samedi l'atmosphère bouillante de Konya, la ferveur exaltée des 42 000 supporters turcs et les près de 30 degrés au thermomètre. Trois jours après, c'est dans un stade de 3 000 places sous la pluie et par environ 5 degrés que les Bleus vont affronter une équipe beaucoup plus modeste, le tout sur un terrain synthétique, comme beaucoup n'en ont plus connu depuis leurs équipes de jeunes. Bref, il va falloir s'adapter, tout simplement pour Didier Deschamps, le sélectionneur.
On passe d'une extrême à l'autre, mais le maître mot c'est s'adapter. C'est pas le même adversaire, c'est pas la même surface de jeu, ça c'est un constat, tout le monde peut le faire. On va pas prendre ça comme excuse, là on a la possibilité de prendre 3 points de plus.
Mais pour ça la clé ça va être la motivation, pas toujours simple hein, face à un adversaire annoncé comme très faible, et alors que les vacances se profilent, le contexte devrait jouer, explique le capitaine Hugo Lloris.
On n'a pas la place de pouvoir jouer relâché, encore plus avec ce que l'on a montré en Turquie. Il faut montrer un autre visage et finir la saison sur une bonne note en prenant les 3 points.
Décidément, ces fameux 3 points sont sur toutes les lèvres. Tout autre résultat transformerait l'été des Bleus en petit cauchemar. Andorre-la-Vieille, Cédric Langrotte, France Inter.
Voilà les Bleus chez le 134e au classement FIFA. Chez les femmes, Coupe du Monde féminine de football, la Nouvelle-Zélande affrontera les Pays-Bas cet après-midi. Le Chili fera face à la Suède à 18h ce soir.
Merci Florence Paracuelos.